Croustillant praliné. Le croquembouche.com.
Marceau, le matin.
Boulevard 102.1.
7h32 minutes dans les dans la prochaine demi-heure, on va avoir Denis Gravel à 7h55 pour le pit stop. On va parler de plein de dossiers qui touchent l'actualité et dans les prochaines secondes, on va avoir le plaisir de jaser avec Luc La Liberté, notre chroniqueur politique américaine, parce que ça brasse. Il y a des choses qui sont en train de se régler. Une bonne nouvelle pour les gens là-bas, une bonne nouvelle pour les gens ici, parce que à un moment donné, le prix de l'essence peut pas être aussi
exactement
élevé.
Les vacances arrivent.
Quoi qu'ils vont probablement nous trouver un problème avec une plateforme quelque part dans le golfe du Mexique. Là,
c'est sûr.
Où est tabarouette? En raison de l'incertitude de cette plateforme-là, on va augmenter ça de 20 cents juste avant un congé de la construction.
Peut-être que c'est là que le Venezuela revient dans l'actualité.
Ah, peut-être.
Hey, vous savez, ça n'en produisait du pétrole avant, ça n'en produit plus assez.
Ouais.
On en manque, saison estivale, les gens voyagent beaucoup.
Bref, on parle avec Luc La Liberté dans les prochaines secondes. Juste avant, Max, sur la route.
Capital Ouest, l'heure de pointe qui est entamée là, entre Beau-Royal et Laurentienne. Robert Bourassa Sud vers le boulevard Le Bourgneuf, des ralentissements aussi. Henri IV Sud, hauteur Chauveau au rouge. Par l'autre bord, à partir de la route Léo-Major, quand tu roules vers Shannon, c'est au ralenti. Secteur des ponts, c'est vraiment pas si pire ce matin. Oui, il y a un ralentissement, là, mais ça a bien de l'allure. Par contre, 20 Ouest, bon ralentissement. À partir de mi-chemin entre route du président Kennedy et chemin des îles jusqu'à et 20 Est vers Taniata en raison des travaux. Là, c'est au rouge aussi.
Parfait. Max Larouche, on revient sur cette entente entre Donald Trump et le président iranien. Tu peux-tu nous résumer ce qui s'est passé dans les dernières heures? On sait qu'il y a eu une signature électronique sur ce deal-là. Qu'est-ce que ça implique?
À la base, on parlait vraiment d'une signature qui aurait lieu demain, sauf que là, on s'est dit « Hey, tabarouette, on peut faire ça électroniquement avant de faire une belle cérémonie vendredi. » Fait qu'on va faire ça. Ça a été fait hier soir. Ça a été signé par Donald Trump et le président iranien. Ce qu'il y a là-dedans, ce texte-là, parce que c'est un protocole d'accord. Fait que on a des bases, puis après ça, on travaille sur ces bases-là. Fait qu'il y aurait une période de négociation donc de 60 jours. Cessez-le-feu qui inclurait le Liban. Les sanctions américaines sur le pétrole iranien qui devaient aussi être suspendues dès la signature. L'Iran de son bord qui s'engage à rétablir dans un délai de 30 jours la circulation complète dans le détroit d'Ormuz. Il y a aussi une histoire d'un fonds de 300 milliards de dollars pour la reconstruction et le développement économique de l'Iran. Les États-Unis qui disent on va partir au déblocage de ce fonds-là. Par contre, on ne veut pas mettre de financement directement là-dedans. Là, demain, ce qui va se passer du côté de la Suisse, c'est qu'il y aura la fameuse cérémonie là, pour célébrer l'accord. Puis en même temps, on va commencer des premières négociations pour la suite avec les médiateurs, le Pakistan et le Qatar. Ce matin, Donald Trump a écrit sur Truth Social « Ces imbéciles qui pensent que j'ai pas été assez dur avec l'Iran alors que la bourse vient d'atteindre un niveau record et que les prix du pétrole s'effondrent, sont soit jaloux, soit de mauvaises personnes, soit stupides. »
On en parle avec Luc La Liberté, prof d'histoire et spécialiste de la politique américaine. Salut Luc!
Ouais, bonjour, bon matin!
Je te vois rire, ton petit sourire comme ça m'inquiète. Est-ce que Netanyahou et Israël sont inclus dans le deal? Est-ce qu'ils sont d'accord avec ce deal-là?
Non, je souriais parce que j'écoutais attentivement ce que Max nous racontait et je fais partie de ces mauvaises personnes. Donc, j'émettais certaines réserves ou à tout le moins, je suis pas certain si je suis un Américain, je suis bien content du travail de mon administration. Mais oui, tu as parfaitement raison. Une des problématiques majeures au moment où on se parle, au-delà du contenu de l'entente, c'est qu'il y a des choses dont on ne parle pas dans l'entente. Et hier, pendant le point de presse dans lequel le président parlait des mérites du protocole d'entente, il a remercié Netanyahou, mais en même temps, en disant, Netanyahou, des fois, il est difficile à gérer. C'est ce qu'il laissait entendre. Mais en disant, on s'entend pas tout à fait. Là, il nous reste des petites choses à régler à propos des frappes sur le Liban. Mais il faut rappeler que dans le protocole d'entente que Max vient de nous rapporter, donc, dans ce protocole d'entente, le cessez-le-feu, il est pas pour l'Iran. Il est pour l'Iran, mais la région, incluant le Liban. Et de ça, on parle depuis longtemps. On en reparle ce matin parce que là, on a le contenu de l'entente, mais c'est ce qui déjà circulait depuis un moment. Donc, si on parle de quelqu'un qui peut être, d'un point de vue américain ou du point de vue iranien, un fauteur de troubles dans le dossier, C'est Netanyahou qui n'a, lui, en politique intérieure, aucun intérêt à ce cessez-le-feu. On dit que littéralement, Netanyahou rage actuellement, donc de la situation qui prévaut, puis du contenu de l'accord auquel lui, il dit, ou du protocole d'entente plutôt, mais lui dit, ça ne me lie pas, ça, ce protocole. Donc, si déjà on parle d'un protocole, on va tous se réjouir, je pense, si le conflit prend fin, que la situation revient à la normale dans plusieurs semaines dans le détroit d'Ormuz. Entendons-nous, on est content de ça. Et l'Iran n'est pas devenu un meilleur pays, meilleur avec sa population, puis quelqu'un qui va moins financer le terrorisme. Mais donc, Netanyahou peut être là-dedans, le caillou dans la chaussure, dans la proverbiale chaussure de Donald Trump.
Est-ce que l'Iran s'est renforcé dans les dernières semaines avec ce qu'ils ont appris, comme quoi ils pouvaient avoir un impact sur l'économie mondiale en étant très près du détroit d'Ormuz? Est-ce que l'Iran s'est affaibli ou renforcé? Est-ce que les États-Unis ont gagné quelque chose dans cette aventure-là?
Écoute, quand on essaie de faire le bilan, puis rappelons-le, c'est important, là, on fait ça ce matin, 18 juin, on ne sait pas tout à fait encore comment va être respecté ce protocole d'entente et à quoi vont mener les négociations pendant les 60 jours du cessez-le-feu. Mais ça m'apparaît très clair que l'Iran, ce matin, obtient plus et obtient plus immédiatement. Au plan stratégique, on a fait la preuve qu'on pouvait contrôler le détroit pendant un bon moment et qu'on peut exercer des pressions pas que sur les États-Unis, sur une partie de la planète. Mais quand tu regardes, Max l'énumérait tout à l'heure, mais ça vaut la peine d'y revenir, c'est 25 milliards d'avoirs iraniens qui étaient gelés et le simple fait d'avoir signé, on débloque la moitié de ces avoirs. Donc, on vient déjà de gagner à court terme. On a un 300 milliards. C'est le pays qui serait défait, selon la version américaine. C'est les perdants. On leur donne 300 milliards dans un fonds de reconstruction. On va bien sûr dire, pour ce 300 milliards, l'Iran va avoir à respecter un certain nombre de choses. On va avoir des comptes à rendre. Mais c'est quand même 300 milliards de dollars qu'on va chercher. Il y a ces dérogations pour, bien sûr, le pétrole ou les transactions sur le pétrole. Et on a la levée du blocus américain. La plupart des éléments que je viens de mentionner, le seul l'Iran tient ça ce matin, là.
Les États-Unis gagnent quoi?
Voilà, les États-Unis gagnent, et hier le président était bien fier, entre autres pour la fin du G7 d'annoncer ça, on ouvre le détroit d'Ormuz. Mais est-ce qu'ouvrir le détroit d'Ormuz, qui était déjà ouvert avant le conflit, ça justifie d'un point de vue américain? On prétend que la guerre là, a coûté, les évaluations sont floues, le Pentagone dit on a investi 25 milliards là-dedans. Mais des observateurs indépendants vont jusqu'à 100 milliards que pour le coût de la guerre. Et on ajoute à ça, vous l'avez évoqué avec le prix du pétrole, les milliards de dollars que ça a coûté. Ce sont des coûts réels, c'est des retombées pour les Américains du conflit. On en est à quelques centaines de milliards de dollars de retombées puis une hausse de l'inflation. Donc, prenez ces sommes-là qui sont faramineuses, qui donnent le tournis. Est-ce que ça valait le coup d'annoncer qu'on ouvrait le détroit après tout ça? Et l'autre chose qu'on obtient...
Donc,
ça,
Donald Trump, en fait, il a défoncé une porte qui était ouverte.
Ben, écoute, il a...
il a donné un coup de pied dans la porte qui était déjà ouverte, puis il a dit, regardez, j'ai bien fait ma job, la porte est ouverte.
c'est pas bête de le présenter, c'est pas malhonnête de le présenter comme ça. L'autre gros élément, et ça, les gens vont dire, oui, mais c'est un gain réel. Il dit, l'Iran s'est engagé dans le protocole d'entente à ne jamais développer l'arme nucléaire.
Mais c'était déjà entendu, ça.
Ben voilà, c'est ce que les propres services de renseignement... Ça a coûté l'emploi de Tulsi Gabbard en passant, là. Donc, les services de renseignement américains, les propres services de Donald Trump disaient ils n'ont pas l'arme nucléaire et il n'y a pas d'attaque imminente. Donc, est-ce que ça ne signifie pas qu'il ne fallait pas exercer des pressions sur l'Iran? C'est pas ça, on ne défend pas l'Iran non plus. Mais est-ce que ça valait une guerre qui est aussi coûteuse pour revenir à une situation qu'on avait en 2015? Donald Trump déchire l'entente de 2015 sur le nucléaire et là, hier, nous annonce on a ouvert le détroit et l'Iran ne se dotera pas de l'arme nucléaire. Et en même temps, je répète, il y a des choses qui ne sont pas dans l'entente et qui étaient très importantes pour Donald Trump et pour les Américains. mettons Trump de côté, je suis un Américain. Une des choses que je reproche à l'Iran, c'est d'appuyer ce qu'on appelle les proxies en anglais, des alliés ou des groupes armés qui frappent au Liban, qui frappent en Irak, qui frappent au Yémen. Il n'y a rien qui est écrit là-dessus dans le protocole d'entente et ça devait y être. Et c'est là où ça devient très difficile de dire, ben, cette guerre-là était justifiée et les Américains en sortent gagnants. Moi, j'ai plutôt l'impression que les Iraniens ont lu et appliqué « The Art of the Deal » et que cette fois-là, ben, on le ramène au visage de Donald Trump.
Et on n'a pas terminé avec les Iraniens. Ça pourrait revenir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Est-ce qu'aux États-Unis, il y a des choses qui sont mises en place pour faire un débrief de ce qui s'est passé dans les derniers mois? Ils vont se concentrer sur le travail de Donald Trump, la guerre qu'on a livrée là-bas sans avoir la permission en disant « Ouais, mais là, on avait un certain délai, on a arrêté, mais là, on a continué. » Il va-tu y avoir un certain débrief? Puis Donald Trump pourrait-il avoir des problèmes avec justement le fait que les États-Unis n'ont absolument rien gagné?
Les Républicains vont avoir des problèmes. Donald Trump lui-même, pas vraiment. C'est les Républicains qui s'en vont en élection. Ils vont devoir travailler très fort, tu me pardonneras l'expression en anglais, pour spinner ça, pour nous présenter un angle favorable d'ici aux élections de mi-mandat. Parce que, et je n'invente rien, pour les auditeurs, auditrices qui ont le temps ou l'envie de le faire, allez voir comment les Républicains du Sénat réagissent ce matin. Là. Les médias américains couvrent ça. Allez voir sur Fox News, allez voir sur CNN, faites le tour. Il y a beaucoup de républicains qui sont choqués de l'entente ou du protocole d'entente en disant « c'est pas vrai qu'on va accorder 300 milliards aux Iraniens qu'on est censé avoir défait et que déjà on leur débloque la moitié du 25 milliards qu'on leur promet, c'est déjà débloqué ce matin. » Et il y a des républicains qui s'inquiètent de ça, point, au plan stratégique, mais on sent très bien l'inquiétude, et c'est pas la première fois qu'on l'exprime, en prévision des élections de mi-mandat. Trump, ce qu'il espère, c'est de dire « le conflit sera terminé, on sera en pause à tout le moins, le prix de l'essence va baisser, puis aux élections, c'est ça que les gens regardent. » Mais est-ce que c'est suffisant pour combler le déficit dans lequel, le déficit d'appui dans la population, dans lequel se trouvent déjà les républicains? Donc, c'est un peu le portrait qu'on a ce matin. Oui, Jeff?
La façon que l'Iran a négocié le tout en étant très patient, en étant passif, en laissant justement les conditions économiques très difficiles s'installer, est-ce que ça peut inspirer des pays comme le Canada ou l'Union européenne dans leurs négociations avec les États-Unis?
Oui, tu vois, c'est ça. Le degré de dangerosité n'est pas tout à fait le même. Mais effectivement, si tu regardes ce que font les Européens, par exemple, on sort du G7, si on observe ce que fait Mark Carney pour le Canada, puis tout ça peut être critiqué, là. Il y a du bon et du mauvais, il y a des limites à la stratégie, mais on a un peu reproduit ce que les Iraniens ont fait en accéléré pendant 108 jours, c'est-à-dire qu'on joue l'horloge, on joue le temps. Et les Iraniens, on peut faire ça dans un régime autoritaire, remarque. Les Iraniens, c'est brutal, la population iranienne souffre, c'est dans des conditions terribles. On a littéralement utilisé la violence et la force contre notre population,
ben oui.
Surtout au début du conflit. Donc, dans un régime autoritaire, on peut faire ça, malheureusement. Et là, on a effectivement poussé Donald Trump vers ben, « pendant combien de temps vous voulez faire durer ça encore? » Nous, on lutte pour notre survie, puis on a le gros bout du bâton. Donald Trump, comme n'importe quel autre président américain, a des comptes à rendre, puis des élections auxquelles il va se soumettre. Mais c'est pas bête, ce comparatif avec le Canada ou avec les anciens alliés européens. Rappelez-vous que pendant, puis souvent on a critiqué tous les meneurs pour ça, hein, d'Emmanuel Macron à Mark Carney ou Justin Trudeau, c'est qu'on avait l'impression que nos gouvernements faisaient des courbettes, des politesses. Mark Carney a encore encensé Donald Trump. Là, c'était le jeu parce qu'on voulait s'assurer, hein, bien sûr, qu'on signait le protocole d'entente. C'est la stratégie qui était derrière ça. Mais en même temps, on joue le temps. Et on laisse Donald Trump parler fort, sortir ses gros bras, mais ensuite, donc, on regarde les résultats obtenus, puis tranquillement, on ne gagne pas sur toute la ligne, on n'y parviendra pas avec un joueur aussi gros que les États-Unis. Mais tranquillement, on se détourne des États-Unis. Le Canada ne peut pas faire ça brusquement, puis le G7 ou l'Union européenne ne peuvent pas faire ça brusquement. Mais Donald Trump contribue par ses gestes actuellement à poursuivre une tendance que j'ai notée dans son deuxième mandat, c'est que son fameux « America first » devient de plus en plus « America alone ». Il éloigne finalement les partenaires les plus naturels ou les partenaires historiques des États-Unis.
Luc Laliberté, moi, j'aime bien la politique internationale, puis j'aime aussi les anecdotes qui touchent les grands de ce monde. Mark Carney et Donald Trump se sont rencontrés. Il y avait une discussion à table alors que les micros étaient restés ouverts. Puis là, on a su que Mark Carney parlait des fameux véhicules chinois qui s'en viennent au Canada. Il a dit à Donald Trump, je pensais que tu allais être heureux de savoir que c'est juste 3% de notre industrie, les véhicules chinois. Et Donald Trump dit, OK, oui, ça a bien de l'allure. C'est-tu anecdotique comme événement ou c'est des choses qui arrivent régulièrement qu'on oublie de fermer les micros quand deux hommes quand même assez puissants de la planète se jasent? Écoute, ça peut être dramatique, là.
Tout à fait. Et ce sont des erreurs. Je ne sais pas qui était la personne ou les personnes en charge de gérer ces micros, mais il y a fort à parier qu'il y a des gens qui se trouvent, qui cherchent du travail ce matin ou qui encore ont eu une coupure de salaire assez dramatique ou ils ont été replacés ailleurs dans l'organisme où on n'en entendra pas parler. Mais oui, ça peut avoir des incidences qui sont dramatiques. Ça arrive parfois en campagne électorale, ça arrive parfois dans les sommets. En même temps, normalement, des individus qui ont des fonctions aussi importantes que Mark Carney et Donald Trump devraient toujours s'assurer, donc, des fameux hot mics, de ces micros laissés ouverts.
Ouais.
Parce que c'est certain qu'il y a la version qu'on veut publiciser, la version, les réponses qu'on donne aux journalistes, mais il y a des conversations beaucoup plus directes, parfois plus brutales, ou en tout cas plus claires, plus nettes, à micro fermé. Et ce n'est pas la première fois, entre autres, que Donald Trump dit à un partenaire de négociation « Oui, je comprends pourquoi vous faites ça, là. Puis on le sait, le jeu il est évident. » C'est des choses qu'on sait autour des tables de négociation, mais que maintenant, le grand public ou une partie de la planète soit informée, je ne voudrais pas être la personne qui a laissé le micro ouvert.
Effectivement. Luc Laliberté, c'est toujours un plaisir pour te retrouver sur les internets pour avoir accès à tes podcasts qui parlent justement de politique américaine.
Oui, donc La Liberté en clair, c'est sur Facebook, mais relayé sur la plupart des plateformes connues. Donc, c'est chaque matin habituellement, d'ailleurs presque à l'heure où on se parle. C'est entre 7h30 et 8h moins quart. Je dépose ces chroniques en ligne, ces capsules en ligne, c'est court. Habituellement, on fait ça de 5 à 7 minutes et c'est les principaux enjeux de la journée qu'on expose. Version Luc La Liberté.
Luc La Liberté, c'est toujours un plaisir.
Salut. Partagez une bonne journée.
Merci Salut. Beaucoup. Bye-bye. Luc La Liberté, à qui on aime bien jaser chaque semaine. Max, sur la route, comment ça se passe?
C'est pas si mal ce matin. Là. Oui, un peu d'attente pour l'accès aux deux ponts direction nord, mais j'ai vu bien pire. Sinon, 20 est vers Taniata au rouge, 20 ouest à partir d'un peu passé, route du président Kennedy jusqu'à Taniata. Ça aussi, c'est au ralenti. Henri 4 sud vers la 40 au ralenti. 40 est entre Duplessis et Henri 4, c'est au rouge. Capitale ouest, petit ralentissement entre Beau-Royal et Laurentienne. Laurentienne sud au ralenti vers la capitale à partir... je vous dirais, de boulevard Louis XIV à peu près. Robert Bourassa sud vers le boulevard Le Bourgneuf au ralenti. Henri 4 sud, hauteur Chauveau, petit ralentissement également. Puis par l'autre bord, quand tu roules vers Shannon à partir de la route Léo-Major, il y a un ralentissement.
Dans quelques minutes, Denis Gravel s'amène pour le Pit Stop.
Pour nous informer de ce qui se passe,